Jules Verne, César Cascabel, première partie, chapitre 15. Port Clarence. Port Clarence est le port le plus avancé vers le nord-ouest que l'Amérique septentrionale possède sur le détroit de Bering. Situé au sud du cap du Prince de Galles, il se creuse dans la partie du littoral où se dessine le nez de cette figure dont le profil est représenté par la côte à la Skienne. Ce port présente un excellent mouillage très apprécié des navigateurs, et plus particulièrement de ces baleiniers dont les navires vont chercher fortune dans les mers arctiques. La belle roulotte était venue camper près de la berge intérieure du port, près de l'embouchure d'une petite rivière, à l'accord de hautes roches couronnées par un massif de maigres bouleaux. Là devait se faire la plus longue halte de tout le voyage. Là se prolongerait le repos de la petite troupe, un repos forcé que commandait l'état du détroit, dont la surface n'était pas encore solidifiée à cette époque de l'année. Inutile d'ajouter que la voiture n'aurait pu le franchir à bord de ces embarcations qui font le service de Port Clarence, lesquelles ne sont que des canots de pêche d'un très faible tonnage. Il fallait s'en tenir au projet de gagner la côte asiatique lorsque la mer serait changée en un immense icefield. Cette longue halte n'était pas à regretter au moment d'entreprendre la seconde partie de ce voyage où commenceraient véritablement les difficultés physiques, la lutte contre le froid, contre les tempêtes de neige, du moins tant que la belle roulotte n'aurait pas atteint ces territoires plus abordables de la Sibérie méridionale. Jusque-là, il y aurait quelques semaines, peut-être quelques mois, très rudes à passer, et on ne pouvait que se féliciter d'avoir le temps de compléter les préparatifs en vue d'un si pénible cheminement. En effet, si certains objets avaient pu être achetés chez les Indiens du fort Nulato, d'autres manquaient encore dont M. Cascabel comptait faire acquisition, soit chez les négociants, soit chez les indigènes de Port Clarence. Il résulte de là que son personnel éprouva une réelle satisfaction lorsqu'il prononça sa phrase bien connue « En place ! Repos !» Et ce commandement, toujours favorablement accueilli pendant les marches ou les manœuvres militaires, fut aussitôt suivi de cet autre, jeté à pleine voix par le jeune Cendre. Rompez les rangs! Et si les rangs furent rompus, on peut le croire. Ainsi qu'on l'imagine, l'arrivée de la belle roulotte à Port Clarence ne devait point passer inaperçue. Jamais pareille machine ambulante ne s'était aventurée si loin, puisqu'elle avait atteint les confins même de l'Amérique septentrionale. Pour la première fois, des saltimbanques français apparaissaient aux regards émerveillés des indigènes. Il y avait alors à Port Clarence, en dehors de sa population habituelle d'esquimaux et de négociants, un certain nombre de fonctionnaires russes. C'étaient ceux qui, depuis l'annexion de l'Alaska aux États-Unis, avaient reçu ordre de repasser le détroit pour regagner soit la presqu'île des Tchouktchi, sur la côte asiatique, soit Petropavlovsk, la capitale du Kamchatka. Ces agents se joignirent à toute la population pour faire bon accueil à la famille Cascabel, et il faut constater que la réception des Esquimaux fut particulièrement très cordiale. C'étaient ces mêmes Esquimaux que, 12 ans plus tard, le célèbre navigateur Nordenskiold devait rencontrer en ces parages lors de cette audacieuse campagne dans laquelle il découvrit le passage du Nord-Est. À cette époque, quelques-uns de ces indigènes étaient armés de revolvers et de fusils à tir rapide, premier don de la civilisation américaine. Comme la saison d'été était à peine terminée, les naturels de Port Clarence n'avaient pas encore réintégré leurs habitations d'hiver. Ils s'étaient établis sous de petites tentes élégamment dressées faites d'épaisses toiles de coton à vif bariolage et consolidées par des tresses d'herbe. À l'intérieur se trouvaient nombre d'ustensiles fabriqués avec des noix de coco. Et Claude Girofle, lorsqu'il vit pour la première fois ces ustensiles, de s'écrier « Ah, ça, Mais ils poussent donc des cocotiers dans les forêts de l'Esquimaudit. À moins, lui répondit Monsieur Serge, que ces noix aient été apportées des îles du Pacifique et échangées par des baleiniers qui font relâche à Port Clarence. Et Monsieur Serge avait raison. Du reste, les rapports des Américains et des indigènes étaient déjà très suivis à cette époque. Il s'opérait entre eux une fusion tout à l'avantage du développement de la race esquimaude. À ce propos, il faut faire observer, ainsi qu'on le verra plus tard, qu'il n'existe aucune conformité de type ni de mœurs entre les Esquimaux d'origine américaine et les indigènes de la Sibérie asiatique. Ces tribus alaskiennes ne comprennent même pas la langue qui se parle à l'ouest du détroit de Bering. Mais leur idiome étant très mélangé de mots anglais et russes, il n'était pas trop difficile de converser avec eux. Il s'ensuit que, dès les premiers jours de son installation, la famille Cascabel voulut se mettre en rapport avec les indigènes disséminés autour de Port Clarence. Ayant été hospitalièrement reçue dans les tentes de ces braves gens, elle n'hésita point à leur ouvrir les portes de la belle roulotte, ce dont personne n'eut à se repentir. Ces Esquimaux sont d'ailleurs beaucoup plus civilisés que le public ne le croit généralement. On se les figure comme des sortes de phoques de l'espèce parlante, des amphibies à face humaine, à en juger par les vêtements qu'ils ont l'habitude de porter, surtout pendant la saison d'hiver. Il n'en est rien, et à Port Clarence, les représentants de la race esquimaude ne sont ni répugnants à voir, ni désagréables à fréquenter. Quelques-uns poussent même le respect de la mode jusqu'à s'habiller presque à l'européenne. La plupart obéissent à une certaine coquetterie, qui admet l'ajustement en peau de renne ou de phoque, le pasque en fourrure de marmotte, le tatouage de la figure, c'est-à-dire quelques légères traces de dessin appliquées sur le menton. Les hommes ont la barbe courte et rare. Au coin des lèvres, trois trous, percés avec art, leur permettent d'y suspendre de petits anneaux en os sculpté, et le cartilage de leur nez reçoit aussi quelques ornements de ce genre. En somme, les Esquimaux qui vinrent rendre leurs devoirs à la famille Cascabel n'avaient point un fâcheux aspect, cet aspect que présentent trop souvent les Samoyèdes ou autres indigènes du littoral asiatique. Les jeunes filles portaient à leurs oreilles des rubans de perles, à leurs bras des bracelets de fer ou de cuivre assez finement travaillés. Il faut également noter que c'étaient d'honnêtes gens, pleins de bonne foi dans les transactions, bien que marchandant et quémandant à l'excès. En résumé, reprocher ce défaut au naturel des régions arctiques, ce serait se montrer sévère. La plus parfaite égalité règne parmi eux. Ils n'ont pas même de chef de clan. Quant à leur religion, c'est le paganisme. Ils adorent en fait de divinités des poteaux à figures sculptées et peintes en rouge, qui représentent diverses sortes d'oiseaux dont les ailes se déploient largement en éventail. Ils ont des mœurs pures, un sentiment très développé de la famille, le respect des pères et mères, l'amour des enfants, la vénération des morts, dont les cadavres, exposés en plein air, sont habillés de vêtements de fête, ayant près d'eux armes et kayaks. Les Cascabel se plaisaient beaucoup à ces promenades quotidiennes qu'ils faisaient aux environs de Port Clarence. Souvent aussi, ils allaient visiter une ancienne huilerie de fondation américaine qui fonctionnait encore à cette époque. Le pays n'est pas dépourvu d'arbres ni le sol de végétation, aspect très différent de celui que représente la presqu'île des Tchouktchis de l'autre côté du détroit. Cela tient à ce que, le long de la côte du nouveau continent, monte un courant chaud venu des brûlants parages du Pacifique, tandis que, le long du littoral sibérien, descend un courant froid puisé au bassin des mers boréales. Il va sans dire que M. Cascabel n'avait point l'intention de donner des représentations aux indigènes de Port Clarence. Il se défiait, et pour cause. Jugez donc s'il s'était trouvé parmi eux des acrobates, des jongleurs, des clowns aussi remarquables que chez les Indiens du Fort Yukon. Mieux valait ne pas risquer de compromettre une seconde fois la réputation de la famille. En attendant, les jours s'écoulaient, et en réalité c'était plus qu'il n'était nécessaire pour le repos de la petite troupe. Certainement, après une semaine de halte à Port Clarence, tous auraient été en état d'affronter les fatigues d'un voyage en terre sibérienne. mais le détroit était toujours interdit à la belle roulotte. À la fin de septembre, et sous cette latitude, si la température était déjà au-dessous du zéro centigrade en moyenne, le bras de mer qui sépare l'Asie de l'Amérique n'était pas encore pris. Il passait de nombreux glaçons, formés au large sur les limites du bassin de Bering et qui remontaient vers le nord en prolongeant la côte alaskienne sous l'action de ce courant venu du Pacifique. Mais il fallait attendre que ces glaçons se fussent solidifiés puis agglomérés de manière à ne plus offrir qu'un immense icefield immobile et carrossable entre les deux continents. Il était évident que, sur cette couche glacée devenue assez résistante pour qu'il y pût passer un convoi d'artillerie, la belle roulotte et son personnel ne couraient aucun risque. Ce n'était d'ailleurs qu'un trajet d'une vingtaine de lieues dans la partie la plus resserrée du détroit, comprise entre le cap du Prince de Galles, un peu au-dessus de Port Clarence, et le petit port de Noumana, situé sur la côte sibérienne. « Diable !» dit un jour M. Cascabel. Il est vraiment fâcheux que les Américains n'aient pas construit un pont. « Un pont de 20 lieues !» s'écria Cendre. « Et pourquoi pas ?» fit observer Jean. « Il pourrait s'appuyer au milieu du détroit sur l'îlot Diomède. »« Ce ne serait pas impossible, » répondit M. Serge. « Et il est permis de croire que cela se fera un jour, comme tout ce que peut faire l'intelligence de l'homme. »« On se propose bien de jeter un pont au-dessus du Pas-de-Calais, » dit Jean. « Tu as raison, mon ami, » répondit M. Serge. « Pourtant, convenons-en, le pont du détroit de Bering serait moins utile que le pont de Calais à Douvres. Positivement, il ne ferait pas ses frais. » « S'il était peu utile pour les voyageurs en général, » reprit Cornelia, « il le serait pour nous, du moins. »« Eh, j'y pense, » répliqua M. Cascabel. « Mais pendant les deux tiers de l'année, il existe notre pont, un pont en glace. » Aussi solide que n'importe quel pont de pierre ou de fer. C'est Dame Nature qui le reconstruit tous les ans, après la débâcle, et elle ne demande pas de péage. » Il disait vrai, M. Cascabel, avec son habitude de prendre les choses par leur bon côté. Pourquoi un pont qui coûterait des millions, quand il suffisait d'attendre le moment favorable pour que le passage fût assuré aux piétons comme aux voitures? En effet, cela ne pouvait plus tarder. Il ne fallait qu'un peu de patience. Vers le 7 octobre, il fut constant que la période d'hivernage était définitivement établie sous cette haute latitude. Il neigeait fréquemment. Toute trace de végétation avait disparu. Les rares arbres du littoral, dépouillés de leurs dernières feuilles, étaient chargés de givre. On ne voyait plus rien de ces maigres plantes des contrées boréales, dont les espèces sont si voisines de celles de la Scandinavie, ni aucune de ces linéaires qui composent en grande partie l'herbier de la flore arctique. Toutefois, si les glaçons dérivaient toujours à travers le détroit, tant le courant est rapide, ils s'accroissaient en largeur et en épaisseur. De même qu'il suffit d'un grand coup de feu pour opérer la soudure des métaux, il suffirait ici d'un grand coup de froid pour souder les morceaux de l'icefield. On pouvait l'attendre d'un jour à l'autre. Et pourtant, si la famille Cascabel avait hâte que le détroit fût praticable et lui permît de quitter Port Clarence, si ce devait être une joie de mettre enfin le pied sur l'ancien continent, cette joie ne laissait pas d'être mêlée d'amertume. Ce serait l'heure de la séparation. On abandonnerait l'Alaska, sans doute, mais M. Serge resterait dans ce pays, puisqu'il n'était pas question qu'il allât plus loin vers l'ouest. Et après l'hiver, il reprendrait ses excursions à travers cette partie de l'Amérique dont il voulait achever l'exploration en visitant ces territoires situés au nord du Yukon et au-delà des montagnes. Séparation cruelle pour les uns comme pour les autres, car tous étaient liés, non seulement par la sympathie, mais aussi par une amitié très étroite. Le plus attristé, on le devine, c'était Jean. Pouvait-il oublier que M. Serge emmènerait Cayette avec lui? Et n'était-ce pas l'intérêt de la jeune Indienne que son avenir fût remis entre les mains de son nouveau père? À qui pouvait-elle être mieux confiée qu'à M. Serge? Il en avait fait sa fille adoptive, il la conduirait en Europe, il la ferait instruire, il lui assurerait une situation qu'elle ne trouverait jamais dans une famille de pauvres saltimbanques. En présence de tels avantages, eût-il été permis d'hésiter? Non, certes, et Jean était le premier à le reconnaître. Malgré cela, il n'en éprouvait pas moins une peine que trahissait sa tristesse croissante. Comment aurait-il eu la force de se maîtriser? Se séparer de Cayette, ne plus la voir, ne plus la revoir même, lorsqu'elle serait si loin de lui matériellement et moralement, quand elle aurait pris place dans la propre famille de M. Serge. Perdre cette douce habitude qu'ils avaient tous les deux de causer ensemble, de travailler ensemble, d'être toujours l'un près de l'autre, c'était désespérant. D'autre part, si Jean était très malheureux, son père, sa mère, son frère et sa sœur, profondément attachés à Cayette, ne pouvaient se faire à l'idée de s'éloigner d'elle non plus que de M. Serge. Ils auraient donné gros, comme disait M. Cascabel, pour que M. Serge consentît à les accompagner jusqu'au terme de leur voyage. Ce serait encore quelques mois à passer près de lui, puis ensuite on verrait. Il a été dit que les habitants de Port Clarence avaient pris cette famille en grande affection. Ils ne voyaient pas sans appréhension s'approcher le moment où elle se hasarderait à travers les steppes exposées à de très réels dangers. Mais s'ils montraient de la sympathie à ces Français venus de si loin et qui s'en allaient si loin, quelques-uns des Russes récemment arrivés au détroit étaient portés à observer le personnel de la troupe, et plus particulièrement M. Serge, dans un intérêt tout différent. On ne l'a point oublié, il se trouvait alors, à Port Clarence, un certain nombre de ces fonctionnaires que l'annexion de l'Alaska obligeait à réintégrer les territoires sibériens. Parmi ces agents, il y en avait deux qui avaient été chargés d'une mission toute spéciale sur les territoires américains soumis à l'administration moscovite. Elle consistait à veiller sur les réfugiés politiques auxquels la Nouvelle-Bretagne donnait asile et qui pouvaient être tentés de franchir la frontière alaskienne. Or, ce Russe devenu le compagnon et l'hôte d'une famille de saltimbanques, ce M. Serge qui s'arrêtait précisément aux limites de l'empire du Tsar, leur avait paru quelque peu suspect. Aussi ne le perdait-il pas de vue, toutefois avec assez de prudence pour n'en rien laisser paraître. M. Serge ne se doutait point, par conséquent, qu'il fût l'objet de certains soupçons. Lui également n'appréhendait que la séparation prochaine. Était-il combattu entre l'idée de reprendre son excursion à travers l'Ouest Amérique, ou songeait-il à y renoncer pour suivre ses nouveaux amis jusqu'en Europe? Il eût été difficile de le dire. Cependant, le voyant assez préoccupé, M. Cascabel résolut de provoquer une explication à ce sujet. Un soir, le 11 octobre, après souper, s'adressant à M. Serge, M. Cascabel dit, comme si c'était chose nouvelle, « À propos, M. Serge, vous savez que nous allons bientôt partir pour votre pays ?»« Sans doute, mes amis, cela est convenu. »« Oui, nous allons en Russie, et justement nous passerons par Perm, où demeure votre père, si je ne me trompe. » « Ce n'est pas sans regret et sans envie que je vous vois partir. »« Monsieur Serge, dit Cornelia, est-ce que vous comptez rester longtemps encore en Amérique ?»« Longtemps ? Je ne sais trop. »« Et lorsque vous reviendrez en Europe, quel chemin prendrez-vous ?»« Le chemin du Far West. Mon exploration me ramènera infailliblement vers New York, et c'est là que je m'embarquerai avec Cayette. » « Avec Cayette, » murmura Jean, en regardant la jeune indienne qui baissait la tête. Il y eut quelques instants de silence, puis M. Cascabel reprit d'une voix hésitante. « Voyons, M. Serge, je vais me permettre de vous faire une proposition. Oh, je sais bien que ce sera très pénible de traverser cette grande diablesse de Sibérie, mais enfin, avec du courage et de la volonté... Mon ami... répondit M. Serge, croyez bien que ni les dangers ni les fatigues ne m'effraient, et je les partagerai volontiers avec vous si... Pourquoi n'achèverions-nous pas le voyage ensemble ? Demanda Cornelia. Que ce serait gentil, ajouta Sandre. Et je vous embrasserais bien si vous disiez oui, s'écria Napoléon. Jean et Cayette n'avaient pas prononcé un seul mot, et leur cœur battit violemment. « Mon cher Cascabel, dit alors M. Serge, après avoir réfléchi pendant quelques instants, Je désirerais avoir un entretien avec votre femme et vous. À vos ordres, et tout de suite. Non, demain, répondit Monsieur Serge. Là-dessus, chacun regagna sa couchette, très inquiet et très intrigué à la fois. À quel propos Monsieur Serge demandait-il cet entretien? Se décidait-il à changer ses projets, ou voulait-il seulement mettre la famille en mesure de faire son voyage dans de meilleures conditions, en lui faisant accepter quelque argent? En tout cas, ni Jean ni Cayette ne purent trouver une heure de sommeil. Ce fut le lendemain, dans la matinée, que l'entretien eut lieu, non par méfiance des enfants, mais par crainte d'être entendu des indigènes ou autres qui allaient et venaient. Monsieur Serge avait prié Monsieur et Madame Cascavel de l'accompagner à quelque distance du campement. Sans doute, ce qu'il avait à dire était important, et il convenait que cela fût tenu secret. Tous trois remontèrent la grève, en se dirigeant vers la fabrique d'huile, et voici comment s'engagea cet entretien. « Mes amis, dit Monsieur Serge, écoutez-moi, et réfléchissez bien avant de répondre à la proposition que je vais vous faire. Je ne doute pas de votre bon cœur, et vous m'avez prouvé jusqu'où peut aller votre dévouement. Mais au moment de prendre une dernière détermination, il faut que vous sachiez qui je suis. Qui vous êtes? Vous êtes un brave homme, parbleu! S'écria Monsieur Cascabel. Soit un brave homme, répondit Monsieur Serge, mais un brave homme qui ne veut pas ajouter par sa présence au danger de votre voyage en Sibérie. « Votre présence, un danger, monsieur Serge ?» répondit Cornelia. « Oui, car je m'appelle le comte Serge Narkin. Je suis un proscrit politique. » Et monsieur Serge raconta succinctement son histoire. Le comte Serge Narkin appartenait à une riche famille du gouvernement de Perm. Comme il l'avait dit, passionné pour les sciences et les découvertes géographiques, ce fut à des voyages en toutes les parties du monde qu'il employa les années de sa jeunesse. Malheureusement, il ne s'en tint pas à ces hardies campagnes qui auraient pu lui donner une véritable célébrité. La politique se mêla à sa vie et, en 1857, il fut compromis dans une société secrète où ses relations l'avaient fait entrer. Bref, les membres de cette société furent arrêtés, poursuivis avec toute l'énergie particulière à l'administration moscovite, et la plupart furent condamnés à une déportation perpétuelle en Sibérie. Parmi eux se trouvait le comte Serge Narkin. Il dut partir pour Yakoutsk, lieu de détention qui lui était assigné, abandonnant le seul parent qui lui restait de toute sa famille, son père, le prince Vassili Narkin, maintenant octogénaire, qui habitait son domaine de Valska, près de Perm. Après être resté 5 ans à Yakoutsk, le prisonnier parvint à s'échapper et à gagner Okhotsk, sur le littoral de la mer de ce nom. Là, il put trouver passage à bord d'un navire en partance et atteindre un des ports de la Californie. C'est ainsi que, depuis cette année, le comte Serge Narkin avait vécu soit aux États-Unis, soit dans la Nouvelle-Angleterre, cherchant toujours à se rapprocher de l'Alaska, où il comptait rentrer dès qu'elle serait devenue américaine. Oui, son secret espoir, c'était de revenir en Europe par la Sibérie, précisément ce qu'avait projeté de faire et ce que faisait Monsieur Cascabel. Que l'on juge de ce qu'il éprouva quand il apprit que cette famille, à laquelle il devait son salut, se disposait à gagner le détroit de Béring pour passer en Asie. On comprend que son plus vif désir eût été de l'accompagner. Mais pouvait-il l'exposer aux représailles du gouvernement russe? Si l'on découvrait qu'elle avait favorisé la rentrée d'un condamné politique dans l'Empire moscovite, qu'arriverait-il? Et pourtant, son père était fort âgé, il voulait le revoir. « Venez, monsieur Serge, venez donc avec nous !» s'écria Cornelia. « Il y va de votre liberté, mes amis, de votre vie peut-être, si l'on apprend... »« Et qu'importe, monsieur Serge !» s'écria monsieur Cascabel. Chacun de nous a un compte ouvert là-haut, n'est-ce pas? Eh bien, tâchons d'y apporter le plus possible de bonnes actions. Ça balancera les mauvaises. Mon cher Cascabel, songez bien... Et d'ailleurs, on ne vous reconnaîtra pas, monsieur Serge. Nous sommes des malins, nous autres. Et que le loup me croque, si nous n'en remontrons pas à tous les policiers de la police russe. « Cependant, répondit Monsieur Serge, et tenez, s'il le faut, vous prendrez l'habit de saltimbanque, à moins que vous n'ayez honte. Oh, mon ami, et qui s'avisera jamais de soupçonner que le comte Narkin figure dans le personnel de la famille Cascabel ? Soit, j'accepte, mes amis, oui, j'accepte, et je vous remercie. Bon, bon, fit Monsieur Cascabel. Des remerciements. Croyez-vous par hasard que nous n'en ayons pas autant à votre service? Ainsi, monsieur le comte Narkin. Ne m'appelez pas le comte Narkin. Je ne dois être que monsieur Serge pour tout le monde, même pour vos enfants. Vous avez raison, il est inutile qu'il sache. C'est entendu, nous vous emmenons, monsieur Serge. Et moi, César Cascabel, je me fais fort de vous conduire à Perme, où j'y perdrai mon nom, ce qui serait, vous en conviendrez, une perte irréparable pour les arts. » Quant à l'accueil que reçut M. Serge à son retour à la belle roulotte, lorsque Jean, Cayette, Cendre, Napoléon et Clou apprirent qu'il les accompagnerait jusqu'en Europe, on le devine sans qu'il soit nécessaire d'y insister.